Afrique économique.
La décision prise par trois agences de notation de qualifier la dette souveraine du Ghana de spéculative soulève des questions sur la pertinence de ces notations. Le pays ouest-africain fait face à des contraintes, mais la dégradation de son profil d'émetteur n'est pas à l'abri de toute critique. Selon la plateforme Capital IQ du groupe S&P Global Ratings, la prime de risque exigée par les investisseurs pour se protéger contre un risque de défaut de remboursement de dette, CDS spread, émise par le Ghana a atteint 4002 points de base. C'est l'équivalent de 40% des montants à rembourser par le pays. Ce coût d'assurance est désormais le plus élevé d'Afrique. En effet, les CDS spreads exigés pour le Ghana dépassent désormais celui de la Zambie, 30%, qui techniquement est encore en situation de défaut, même si des informations plus rassurantes ont récemment été données. Cette situation sonne comme une sanction pour un pays qui a fourni des efforts pour se sortir d'une difficile conjoncture que lui imposent des facteurs extrêmes depuis 3 ans, Covid-19, crise en Ukraine et inflation américaine. Malgré une politique monétaire rigoureuse et une gestion prudente du secteur bancaire, le CDI, monnaie du Ghana, a perdu 43,4% face au dollar US depuis le début de l'année 2022, rendant plus difficile la capacité du pays à rembourser sa dette internationale. Certes, la dette publique représente désormais 86,4% de son produit intérieur brut. Le gouvernement du Ghana continue de protester et d'afficher sa déception face aux récentes décisions de S&P Global Ratings et de Fitch Ratings. Mais le problème est plus global en Afrique. Très peu de pays émetteurs de la région ont manqué à leur obligation de remboursement, mais ils sont toujours jugés spéculatifs par les agences de notation, ce qui rend leur accès aux marchés internationaux de capitaux plus difficile et surtout plus cher. Ainsi, le Ghana n'a plus eu d'autre choix que de solliciter l'aide du FMI, dont il avait annoncé son intention de s'en affranchir. Mais même dans cette option, les agences de notation estiment que cela n'apportera pas de solution sur le court terme. Elles ne proposent toutefois aucune voie de sortie concrète pour régler cette situation. En Afrique subsaharienne, 570 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité. Face à cette situation, plusieurs décideurs et investisseurs misent désormais sur le solaire hors réseau, qui est plus facile à déployer en plus d'offrir une électricité propre et durable. Les 3 et 4 août derniers, respectivement à Banjul et à Abidjan, se sont déroulés des ateliers pour le lancement officiel des activités du projet régional d'accès à l'électricité hors réseau, REJAP, de la CEDEAO. Les ateliers avaient pour objectif de présenter la nouvelle structuration du REJAP aux acteurs concernés et de les sensibiliser à la mise en place du cadre politique propice au développement des technologies solaires et du marché des systèmes PV hors réseau, respectivement en Gambie et en Côte d'Ivoire. Pour rappel, le REJAP est un projet de 338,7 millions de dollars de la CEDEAO, soutenu par la Banque mondiale. Il a pour objectif de fournir aux pays bénéficiaires le soutien nécessaire pour un marché de l'électrification au réseau durable afin de répondre aux besoins d'électrification des populations non desservies. Tous les membres de la CEDEAO sont concernés, en plus de 4 autres, à savoir la Mauritanie, la Centrafrique, le Tchad et le Cameroun. Le projet a été déjà lancé cette année au Nigeria et au Togo. Ces lancements interviennent sur un marché africain du hors réseau en pleine croissance. Le continent est d'ailleurs l'actuel leader mondial du déploiement de l'énergie solaire hors réseau. En juillet, la Société nationale du pétrole, NNPC du Nigeria, avait obtenu l'aval de la loi dans sa décision d'empêcher la finalisation de la transaction entreprise en début d'année entre ExxonMobil et Seplat. Le président nigérian, Muhammadu Buhari, a annoncé lundi 8 août sa décision d'autoriser la vente à la compagnie locale Seplat Energy des actifs en eau peu profonde détenue par la majeure pétrolière américaine ExxonMobil via une joint venture avec la compagnie pétrolière publique NNPC. La transaction avait été engagée entre les deux sociétés en février 2022 pour 1,6 milliard de dollars. Depuis, la finalisation de l'opération est retardée. Ceci en raison d'un blocage mis en œuvre par la compagnie pétrolière publique NNPC pour, dit-elle, préserver l'intérêt supérieur de la nation, alors même qu'elle ne bénéficie d'aucun droit préférentiel sur la cession des dits actifs. Une manœuvre soutenue par les services compétents du gouvernement fédéral qui, courant le mois de juillet dernier, ont obtenu de la Haute Cour de justice du Nigeria une ordonnance d'injonction provisoire qui a entériné le blocage. La décision du président Buhari est accueillie par Seplat Energy comme une excellente nouvelle qui permettra à l'entreprise de presque tripler ses niveaux de production grâce à l'ajout d'un plateau additionnel de production d'environ 95 000 barils d'équivalent pétrole. De quoi faire de la société l'une des plus grandes compagnies énergétiques indépendantes cotées sur les marchés boursiers du Nigeria et de Londres. Pour ExxonMobil, cette décision matérialise son ambition longtemps affichée de se délester, comme plusieurs autres compagnies, d'activités pétrolières situées à terre ou en eau peu profonde. Des opérations souvent objets d'actes de vandalisme et de vol de brut qui sapent leurs résultats financiers dans le pays. L'Algérie poursuit l'exécution du plan d'augmentation de ses débouchés commerciaux en Afrique, notamment vers la côte ouest du continent. Une liaison maritime régulière entre l'Algérie et le Sénégal a été ouverte le dimanche 31 juillet 2022. Cette nouvelle desserte maritime constitue le prolongement de l'île Alger-Nouakchott lancée fin février, laquelle constituait un positionnement stratégique de l'Algérie pour s'introduire sur le marché ouest africain vu la proximité du Sénégal et de la Mauritanie. Pour atteindre les côtes sénégalaises, les expéditions maritimes algériennes appareilleront du port de Djenjen vers la capitale Alger et marqueront une escale à Nouakchott avant de mettre le cap sur Dakar, d'après les explications de Nadia Rabia, PDG du groupe algérien de transport maritime Gatma. Cette nouvelle route opère des liaisons mensuelles avec un navire nommé Gouraya qui pour cette première expédition a été chargé à plus de 85% de sa capacité, soit plus de 7000 tonnes de marchandises. Ces dernières sont composées entre autres de fer, de ciment, de céramique et de papier, rapporte Abdesalam Bouab, PDG du port de Djenjen. L'Algérie, depuis quelques années, cherche à diversifier ses sources de revenus et réduire sa dépendance vis-à-vis des recettes pétrolières en misant sur l'intensification des échanges commerciaux intra-africains. La marine de la Guinée équatoriale a arraisonné vendredi 12 août à 14h GMT un navire pétrolier de 336 mètres de long et 60 mètres de large dans ses eaux territoriales d'Anobon. Ce navire dénommé Heroic Eden est dédié à la vente de carburant illégal. Un communiqué de la vice-présidence de la Guinée équatoriale en charge de la défense et de la sécurité indique que le navire arraisonné accostera à Malabo ce samedi à 23h. Il s'agit là d'un énorme coup de filet des forces navales de la Guinée équatoriale, base opérationnelle de la lutte contre le trafic maritime illicite dans le golfe de Guinée, zone CEAC. La piraterie est un phénomène récent en Afrique. Le phénomène est d'abord apparu à l'est du continent, dans le golfe d'Aden, zone de prédilection pour la circulation maritime puisqu'elle commande l'entrée de la mer Rouge. Puis elle a fait des émules sur les côtes occidentales, dans le golfe de Guinée, qui n'est pas une zone essentielle pour le trafic maritime international, mais un espace important de la production d'hydrocarbures. 5 des 9 millions de barils de pétrole produits quotidiennement en Afrique en proviennent.